porteuse de pain, troisième partie, chapitre 31 à 35. Le préfet sonna de nouveau et dit au garçon de bureau qui se présenta « Envoyez-moi, monsieur Rouget !» Un instant après, le vieil employé entrait dans le cabinet après avoir frappé discrètement à la porte. C'était un petit homme maigre qui paraissait plus jeune que son âge, malgré ses cheveux blancs comme de la neige. Il avait les yeux vifs. Sa figure creuse, soigneusement rasée, dénotait l'intelligence. « Monsieur le préfet m'a fait l'honneur de me mander auprès de lui ?» fit-il en saluant. « Oui, monsieur Rouget, je voudrais avoir de vous des renseignements. » « Sur une personne ou sur une chose ?»« Sur une personne née dans ce pays. » « Aux ordres de monsieur le préfet, de qui s'agit-il » « D'un nommé Paul Armand, » répondit Étienne Castel. Rouget, pendant quelques secondes, consulta sa mémoire, puis il dit sans hésiter. « Paul Armand, si je ne me trompe, est né à Dijon en 1832. »« Vous ne vous trompez pas. Sa mère était une Soliveau, couturière, je crois. C'est cela ?» Son père et sa mère sont morts à peu de distance l'un de l'autre. Sa mère, la dernière. Il y a 24 ans environ. Paul Armand était fils unique. Il habitait Dijon? Non, monsieur. Ses parents, lui trouvant une intelligence rare, le mirent à l'école de Châlons, d'où il sortit dans un bon rang. C'était un brave garçon, un franc bourguignon. La tête seulement à peu près du bonnet. Il partit à l'étranger. Où il est mort, n'est-ce pas?
« Du tout, monsieur, du tout.
Qu'est-il devenu ? Il a fait fortune en devenant l'associé d'un grand industriel américain, à New York. Ce sont les journaux qui m'ont appris cela, car on parle de lui dans les journaux. Oui, monsieur. Dans ce moment, il est à Paris, où il a créé, paraît-il, une usine merveilleuse. Ah, c'est un homme qui fait honneur à son pays. J'avais prédit cela à son père. Vous avez connu personnellement Paul Armand ?
Je l'ai connu quand il était jeune.
Il promettait de devenir un gaillard remarquable, et il a tenu parole. Et vous êtes certain que le Paul Armand de Paris est bien celui que vous avez connu?
Parfaitement certain, puisqu'il était le seul de son nom.
N'avait-il point de famille à Dijon ou ailleurs?
Il avait un cousin, le neveu de sa mère, Désiré Soliveau.
Étienne Castel devint particulièrement attentif.
Et ce cousin? Demanda-t-il.
Ovid Soliveau. Un chenapan, monsieur, qui a été condamné par contumace à 3 ans de prison pour vol, il y a 24 ans, et qui depuis a dû aller au bagne. Voilà toute sa parenté. Triste parenté. Vous le voyez, monsieur.
Est-ce qu'on vous avait dit que Paul Armand était mort?
On me l'avait affirmé. On se trompait en l'affirmant. Au moment où l'employé prononçait ces mots, l'huissier rentra. Il apportait l'extrait du casier judiciaire de Paul Armand. La feuille était blanche. « Avez-vous d'autres questions à poser, monsieur ?» demanda le préfet à l'artiste qui répondit « Non, monsieur, je sais tout ce que je désirais savoir, et je remercie monsieur Rouget des renseignements qu'il a bien voulu me donner. »
« Ces renseignements vous ont-ils satisfait ?»«
Oui, car j'ai été heureux d'apprendre que Paul Armand n'était point mort. Il ne me reste, monsieur le préfet, qu'à vous témoigner toute ma vie gratitude pour votre bon accueil et à prendre congé de vous. Vous repartez immédiatement?
Par le premier train.
Pour Paris, sans doute.
Non, pour Joigny. »
Après un échange de politesse, Étienne Castel sortit, reconduit par le préfet jusqu'au seuil de son cabinet. « Il n'y a plus à en douter, » se dit-il en regagnant l'hôtel où il était descendu. « Paul Armand n'est point Jacques Garot. En imaginant cette identité, je commettais une lourde erreur. Ce n'est pas lui qui a tué le père de Lucien. Il n'a pas d'autre raison pour agir comme il le fait que son désir de satisfaire toutes les volontés de Mary. Mais pourquoi cet acharnement contre la fille de Jeanne Fortier? Comment s'est-il procuré ce procès-verbal de dépôt à l'hospice des enfants trouvés? De quel complice s'est-il servi? De cet Ovid Soliveau, peut-être? Après un instant de réflexion, l'artiste ajouta « J'ai beau me déclarer convaincu, j'ai beau avoir devant les yeux un semblant d'évidence, tout en me disant que je n'ai plus à douter, je doute encore. Nous verrons.
Étienne, ayant devant lui pas mal de temps à employer, déjeuna fort longuement, et à 5h30, il prit le train qui le mit à Joigny à 8h30. Le hasard le conduisit à l'hôtel où, un mois auparavant, Ovide Solivaud était descendu sous le pseudonyme aristocratique du baron Arnold de Reis. Il était trop tard pour continuer l'œuvre secrète commencée par lui, et qui, à Dijon, n'avait produit que déception. En conséquence, il remit ses investigations au lendemain. Quittons-le momentanément et rejoignons Ovide. Nous avons laissé le misérable coquin au moment où, revenant de ses pérégrinations matinales, il s'habillait pour aller déjeuner. Sa toilette finie, il descendit jusqu'à ce que le chef de l'école naturaliste appelle le ventre de Paris et s'attabla dans un restaurant des Halles. De là, l'estomac bien lesté, il se rendit rue Dauphine après avoir allumé un cigare. Il passa devant la boulangerie Lebray, à laquelle il jeta un coup d'œil et poursuivit son chemin. Au bout de la rue Dauphine, il s'engagea dans la rue Saint-André-des-Arts, marchant avec lenteur, inspectant la largeur des trottoirs, les étranglements produits par les assises irrégulières des vieilles bâtisses datant d'une époque où on se préoccupait peu de l'alignement, passant enfin partout où le matin Jeanne avait passé. La rue Gilles-le-Cœur, par suite d'un accident, se trouvait barrée. Un tuyau ayant éclaté, le service municipal des eaux faisait opérer la réfection complète des conduites. En conséquence, une tranchée profonde avait été pratiquée sur toute la longueur de la voie et les terres rejetées à droite et à gauche. Les trottoirs seuls restaient libres. De distance en distance, des passerelles avaient été établies afin de rendre possibles les communications d'un côté à l'autre de la rue. Cet état de choses existait déjà depuis 5 ou 6 jours. En suivant Jeanne Fortier, Ovide avait fait la remarque qu'elle s'était engagée, avec son panier à roulettes, sur le trottoir de droite de la rue Gilles-le-Cœur, afin de faire dans cette rue sa distribution de pain et de gagner le quai pour se rendre à la place Saint-Michel. Ovide suivit le trottoir opposé à celui que Jeanne avait pris le matin. Il regardait les travailleurs dans la tranchée. Presque au milieu de la rue, il s'arrêta pour écouter chanter un peintre qui se trouvait sur un échafaudage mobile appuyé au mur de la maison qui lui faisait face. Ce peintre et deux de ses camarades blanchissaient la façade. Ils étaient à la hauteur d'un deuxième étage. Du haut en bas, les logements semblaient vides, à en juger par les fenêtres ouvertes laissant voir des ouvriers à l'intérieur. La boutique du rez-de-chaussée paraissait seule occupée. C'était une petite épicerie. En ce moment, la physionomie mobile du Dijonnais exprima la satisfaction la plus vive. Nos lecteurs ont vu souvent ces échafaudages suspendus au flanc des maisons en réparation par un assemblage de cordes et de poulies. Les ouvriers, sans se déranger, peuvent les faire mouvoir, descendre et monter. Mais il suffit d'une manœuvre maladroite pour les précipiter sur le sol, où ils écrasent tout ce qu'ils rencontrent. Les cordes qui retenaient l'échafaudage par les crampons de fer fixés à chaque extrémité se trouvaient attachées aux barres d'appui de 2 fenêtres du 5e étage. Qu'une main criminelle ou maladroite détachât ces cordes qui rouleraient alors librement dans leur poulie et l'échafaudage s'écroulerait. Le peintre-chanteur possédait une jolie voix et un répertoire inépuisable. Quelques passants faisaient comme Solivaud et s'arrêtaient pour l'écouter. Fier de son succès, il lançait ses notes avec un entrain superbe. Tout à coup, il s'arrêta net au milieu d'une roulade et regarda sa montre. « 4 heures, » dit-il en déposant ses pinceaux. « Hé, les coteries, c'est l'heure d'aller casser une croûte !» Et enjambant les croisées des appartements vides, les 3 ouvriers allèrent rejoindre leurs camarades de l'intérieur, qui bientôt se montrèrent avec eux sur le seuil de la maison. Ovide les vit se diriger vers le quai et entrer chez le marchand de vin installé à l'encoignure de la rue. Il inspecta de nouveau l'immeuble, hocha la tête d'un air satisfait et s'éloigna. Ce jour-là, il rentra fort tard chez lui, portant sous le bras un petit paquet qu'il enferma dans un meuble. Le lendemain matin, debout de bonne heure comme la veille, Solivaud revêtit son costume de chiffonnier et se hâta de se rendre au point de rencontre de la rue Saint-André-des-Arts et de la rue Gilles-le-Cœur. Bientôt, il vit apparaître Maman Lison, poussant devant elle son panier à roulettes chargé de pain. Il regarda sa montre. Elle indiquait 6h10. Ovide entra dans la rue Gilles-le-Cœur et vint rôder en face de la maison en réparation.
Jeanne ne tarda guère à se montrer et, de même que le jour précédent, s'engagea sur le trottoir de droite. Elle fit halte devant la porte de plusieurs maisons, puis enfin elle vint passer sous l'échafaudage en marchant d'un pas égal qu'elle n'allongeait ni ne ralentissait jamais. Pour la seconde fois, le misérable consulta sa montre et vit qu'elle marquait 6h30. « Parfait, » murmura-t-il. « On dirait que c'est fait sur commande. Les peintres prennent leur travail à 7h. Tout sera fini. » Sans attendre plus longtemps, puisqu'il savait ce qu'il voulait savoir, il remonta vers l'avenue de Clichy, y changea de vêtements et se fit une tête différente. Ensuite, il prit une voiture et donna l'ordre au cocher de le conduire place Saint-Michel, où il déjeuna dans un café. À 9:50, il demanda son addition et gagna la rue Gillecœur. Il y arrivait juste au moment où les peintres s'éloignaient pour aller prendre leur repas. Certain d'avoir une heure devant lui, Ovide franchit une des passerelles jetées sur la tranchée de la rue, tira de sa poche un portefeuille, roula un crayon entre ses doigts et se donnant l'air de consulter des notes inscrites sur une page de son portefeuille, il franchit résolument le seuil de la maison qu'on restaurait des caves au grenier. La loge du concierge occupait un renfoncement en retour de l'escalier. Ovide ne chercha point à se dissimuler et gravit lestement les premières marches de l'escalier. La concierge le vit et sortit de la loge. « Vous devez vous tromper, monsieur, » dit-elle. « Il n'y a personne dans la maison. »«
Je le sais bien, » répliqua Soliveau.
« Si vous le savez, pourquoi montez-vous ? » ?»«
Pour inspecter les travaux, tout simplement. »«
Est-ce que vous êtes un commis de l'architecte ?»«
Son toiseur vérificateur, ma bonne dame. »«
Dans ce cas, monsieur, excusez-moi. »«
Il n'y a pas de mal. Je vous préviens que les ouvriers sont à déjeuner. »
Je viens exprès pendant leur absence, afin d'inspecter plus à mon aise. »
Et Ovide se remit à gravir les marches, tandis que la concierge, rentrant dans sa loge, reprenait son déjeuner interrompu. Soliveau monta directement à l'étage où l'échafaudage avait ses attaches. Les cordes étaient passées dans les barres de fer servant d'appui quand on voulait regarder dans la rue par les fenêtres ouvertes, et nouées solidement. La solidité des amarres ne faisait point question. Seules les cordes de rappel, glissant sur les poulies, se trouvaient fixées un peu à la légère. Ovide eut un sourire. De ce premier examen, il passa à celui de l'appartement. Toutes les clés étaient sur les portes. Dans une des chambres du quatrième étage, il remarqua une alcôve fermée. Là, les peintures étaient terminées, les papiers collés, les planchers lavés. Les ouvriers n'avaient plus de travail à faire qu'aux étages inférieurs et dans la cage de l'escalier. Ces différentes remarques amenèrent un nouveau sourire, ou plutôt une grimace de satisfaction, sur les lèvres d'Ovide. Il redescendit et sortit de la maison sans même se tourner vers la cage de la concierge. « Ce sera pour demain matin, » se disait-il tout bas, en retournant chez lui. Le paquet qu'il avait apporté la veille au soir et serré dans un meuble fut ouvert. Il en tira un costume complet de peintre en bâtiment, dont il s'affubla, et vers 5h, il reprit le chemin de la rue Gillecœur. En passant, il examina l'échafaudage qui n'avait subi aucune modification et se trouvait toujours en face du second étage de l'immeuble. Après avoir dîné dans une crèmerie des environs, il revint vers 7h15, ayant l'air de flâner, mais en réalité surveillant la sortie des peintres dont la journée de travail finissait à 7h. À 7h précise, l'échafaudage se dégarnit et les ouvriers quittèrent la maison. Ovide en compta 6. La veille, à la sortie de 4h, il avait constaté le même nombre. Rapidement, il traversa la rue, s'engouffra dans l'immeuble sans que la concierge fît même attention à lui, et grimpa au 4e étage. Les portes étaient closes, mais les clés se trouvaient sur les serrures. Soliveau franchit le seuil de la chambre où il avait remarqué une alcôve fermée, et se blottit au fond de cette alcôve en se disant « Me voici au cœur de la place. Une mauvaise nuit est bientôt passée. À demain matin, la bonne besogne. » Étienne Castel, nous l'avons dit, s'était logé à Joigny, dans le même hôtel où le pseudo-baron de Reiss était descendu quelques semaines auparavant. La mairie, nous le répétons, se trouvait à une très petite distance de cet hôtel. Le lendemain, vers 11h, après s'être renseigné, l'artiste se rendit au domicile particulier du maire de Joigny, fit passer sa carte en sollicitant une audience et fut immédiatement reçu. si je me permets de vous déranger, monsieur, sans avoir l'honneur d'être personnellement connu de vous, lui dit l'ex-tuteur de Georges Darrier, c'est que j'attache une très grande importance à savoir quelle personne est venue à la mairie de Joigny y prendre la pièce que voici. » En même temps, l'artiste tirait de son portefeuille et mettait sous les yeux du maire la pièce déjà connue de nos lecteurs, le procès verbal de dépôt aux enfants assistés de Lucie Fortier.
« Comment cette pièce se trouve-t-elle entre vos mains, monsieur ? » s'écria l'officier de l'état civil en fronçant les sourcils. « C'est un acte authentique qui n'aurait jamais dû sortir de la mairie. »
« Il n'aurait jamais dû sortir de la mairie ? » répéta l'artiste étonné.
« Non, monsieur. »
« Pourquoi cela ? »
« En admettant que la mère ou toute autre personne intéressée soit venue munie des renseignements exigés, demander cette pièce, c'est une copie qui lui aurait été délivrée. La pièce elle-même, la pièce authentique, celle-ci enfin, devait rester annexée au registre. Encore une fois, monsieur, comment cet acte se trouve-t-il dans vos mains ? »
D'une façon très indirecte. Il m'a été confié par quelqu'un à qui il a fait beaucoup de mal. Et comme on s'en est servi pour accomplir une infamie, je voudrais savoir qui l'est venu réclamer ici et à qui on l'a livré.
Cet acte, ne devant point sortir des archives, a certainement été dérobé.
Par qui ?
Je vais tâcher de le découvrir. En admettant qu'on ait délivré cet acte par erreur au lieu d'un duplicata, on l'a fait contre récépissé. Veuillez me suivre. Je dois m'assurer sans retard s'il y a eu fraude ou maladresse. »
L'officier de l'état civil, en compagnie d'Étienne Castel, prit la direction de la mairie et se rendit auprès du secrétaire, auquel il dit d'un ton fort rogue. « Faites chercher immédiatement aux archives le registre du dépôt aux hospices par les nourrices de l'arrondissement, où se trouve l'année 1862. »«
J'irai le prendre moi-même, monsieur le maire, » fit le secrétaire, devinant au ton et à l'attitude de son interlocuteur qu'il s'agissait de quelque chose de grave.
« Allez, j'attends. » L'employé sortit en toute hâte. Son absence fut courte. Au bout de 3 minutes, il reparut, portant le registre que nous connaissons et dans lequel Raoul Duchemin avait pris le procès-verbal livré à Soliveau.
« Monsieur le maire, voici, » dit-il. « Ce registre comprend les années 1859, 1860, 61, 62, 63, 64, 65 et 66. Cherchez au folio 2 de l'année 1862. »
D'une main tremblante, le secrétaire feuilleta le mince volume.
« M'y voici, » dit-il.
« Où est le procès-verbal qui devrait se trouver annexé ici ?» demanda le maire en touchant du doigt la page du registre.
« Mais je ne sais, monsieur, » balbutia le secrétaire.
« Comment vous ne savez pas ? » s'écria l'officier de l'état civil avec une colère qui grandissait de seconde en seconde. « Est-ce que vous avez le droit de ne pas savoir ? Est-ce que tout ceci n'engage pas votre responsabilité ? Il manque une pièce authentique et vous ignorez où elle est ?
Eh bien, la voilà, monsieur, » ajouta le maire en mettant le procès-verbal sous les yeux du secrétaire stupéfait.
Au lieu de donner copie, on a livré l'original. Montrez-moi le récépissé de cet acte, car vous n'avez pu le délivrer sans reçu.
N'ayant remis à personne l'acte que voici, je n'ai pas de récépissé à vous montrer, monsieur, répliqua le secrétaire.
On ne s'est point adressé à moi, je vous en donne ma parole d'honneur.
Pour que cette feuille soit sortie des archives à mon insu, il faut qu'on les soustraite.
Vous portez là, monsieur, une grave accusation contre les employés de la mairie.
Je dis ce qui est, monsieur.
Oui, j'accuse. Qui ? Je l'ignore. Mais j'affirme que depuis plus d'une année, je n'ai délivré aucune copie de feuille de dépôt, et que la dernière délivrée par moi n'était pas celle-ci.
C'est vous seul qui êtes chargé de délivrer les copies des procès-verbaux lorsqu'on les réclame.
Oui, monsieur. On peut en faire la demande au bureau des renseignements, mais cette demande m'est immédiatement transmise.
Appelez le successeur de Raoul Duchemin. Il est à la mairie depuis 15 jours à peine. Ignorant ce qu'il avait à faire, peut-être aura-t-il commis une maladresse.
Étienne Castel prit la parole. Il y a plus de 15 jours que cette pièce est sortie d'ici, fit-il.
Pouvez-vous préciser l'époque ? Demanda le maire.
Oui, monsieur, il y a 1 mois environ.
Duchemin était encore à son poste, dit le secrétaire.
Et c'est précisément à cette époque qu'il a payé ses dettes, sans qu'on ait pu savoir d'où lui venait l'argent avec lequel il les payait. L'accusez-vous positivement ?
Je le soupçonne, monsieur.
C'est à la suite de la rencontre d'un étranger à l'hôtel où il prenait pension qu'il est devenu riche brusquement. Et un garçon de cet hôtel m'a dit avoir vu l'étranger lui remettre des billets de banque.
Moi aussi, je le crois capable de fort vilaines choses, dit le maire, et c'est pour cela que je l'ai congédié.
Savez-vous comment se nommait l'étranger en question ?
À l'hôtel, il se faisait appeler le baron de Reiss.
Connaissez-vous le baron de Reiss ? Demanda le maire à l'artiste.
Non, monsieur.
Envoyez un garçon de bureau chercher le concierge de la mairie. Le secrétaire transmit l'ordre de son chef et le concierge se présenta presque aussitôt.
Vous avez une bonne mémoire, Binet, lui dit l'officier de l'état civil. Je vais aujourd'hui la mettre à l'épreuve.
C'est à vous qu'est confiée la clé des archives.
Oui, monsieur le maire.
On vous prévient quand on la prend.
On me la demande et c'est moi qui la donne.
Toujours ?
Oui, monsieur le maire, toujours.
Vous souvenez-vous si l'employé du chemin vous l'a demandé peu de temps avant son départ ?
Parfaitement. Il me l'a demandé voici environ un mois.
Ah ah !
C'était un matin. Il arrivait à la mairie une heure plus tôt que de coutume. Et même, ça me parut très drôle de le voir arriver ce jour-là avant les autres, lui très paresseux et d'habitude toujours en retard.
Que vous a-t-il dit ?
Qu'il avait des recherches à faire.
Est-il resté longtemps possesseur de la clé ?
Une demi-heure environ.
Le secrétaire intervint.
« Plus de doute, monsieur » s'écria-t-il. « C'est lui qui a commis ce vol. C'est lui qui a soustrait la feuille jointe au registre. J'en jurerai. »«
Vous pouvez vous retirer, Binet, » dit le maire au concierge. « À l'avenir, vous ne remettrez la clé des archives qu'à monsieur le secrétaire, personnellement. »«
Monsieur le maire, je n'y manquerai pas. »
« Quel était ce du chemin, monsieur ?» fit Étienne Castel.
« Un jeune employé fort intelligent, mais peu délicat. Certains faits graves, articulés contre lui, n'ont pas permis de le conserver à la mairie.
Il serait important de le questionner. On arriverait sans doute à savoir à qui il a remis la pièce dérobée.
« Du chemin n'est plus à Joigny, monsieur, » répliqua le secrétaire. « Il est parti pour Paris, il y a une douzaine de jours, et cela ne lui a point porté bonheur.
« Comment ? » ?»«
Il se trouvait dans le train qui a été tamponné à Bois-le-Roi, près de Melun, et j'ai lu son nom sur la liste des victimes publiée dans les journaux.
« Mort ? » s'écria Étienne Castel.
« Blessé, fort grièvement, disait-on.
Peut-être est-il mort à cette heure.
Je ne puis, vous le voyez, monsieur, vous donner d'autres renseignements que ceux qui viennent de nous être fournis. Je vais écrire à Paris au procureur de la République. Et il faudra bien que l'on trouve mon Duchemin, s'il n'est pas mort.
Pouvez-vous m'apprendre à quoi a servi la pièce évidemment dérobée par lui aux archives ?
À commettre une infamie.
Rien ne m'étonne moins. Je vois clair maintenant dans le passé. L'argent dont Duchemin disposait avait servi à payer son vol. On recherchera le baron de Reiss, et je veux avoir le cœur net de toute cette affaire. Je garde cette pièce et vais vous en faire délivrer une copie que je légaliserai.
« Faites, monsieur. Veuillez m'accompagner dans mon cabinet pendant qu'on préparera la copie. Ce sera l'affaire de quelques minutes. »
Étienne suivit le maire de Joigny.
Une demi-heure plus tard, il sortait de la mairie muni d'un double du procès-verbal dûment légalisé. Un train pour Paris passait à 3h45 du matin. Ce fut celui que prit l'artiste pour se rendre à Bois-le-Roi, où il arrivait à 6h30. Le chef de gare venait de prendre son service. L'artiste l'aborda et lui dit «
Permettez-moi, monsieur, de vous demander un renseignement. »«
À votre disposition, monsieur. De quoi s'agit-il ? » ?
« D'une personne blessée dans l'accident qui est arrivé ici il y a une quinzaine de jours. »«
Une personne blessée ? Une dame ? » ?»«
Un jeune homme.
Son nom ?
Duchemin. » »«
Parfaitement. Monsieur Duchemin a été blessé de façon très grave, mais il est à cette heure complètement rétabli. Il vient de toucher une somme de 5 000 francs qui lui a été alloué par la compagnie à titre d'indemnité. C'est moi-même qui ai eu le plaisir de lui verser cette somme.
Est-il encore à Bois-le-Roi ?
Il y était il y a 3 jours, mais il manifestait l'intention de se rendre à Paris le plus tôt possible. Je ne sais s'il est parti. Hier et avant-hier, j'ai fait une absence.
Il doit être facile de savoir si son départ a eu lieu.
Rien de plus facile. Vous n'avez qu'à vous rendre à l'hôtel où il a été soigné. Et bien soigné, j'ose le dire.
Le nom de l'hôtel ?
Au rendez-vous des chasseurs. C'est sur le quai, pas loin d'ici.
Étienne Castel remercia le chef de gare et se dirigea vivement vers l'endroit désigné. C'est à peine si l'hôtel était entrouvert. L'artiste ne trouva debout qu'une servante. Elle accourut à sa rencontre. C'était Madeleine que nous connaissons.
« Monsieur désire ? » demanda-t-elle.
« Une tasse de café au lait et un renseignement. »
« Tous les deux sont à votre disposition ?»«
C'est ici que loge Monsieur Duchemin, blessé dans l'accident du chemin de fer ?»«
C'est ici qu'il logeait, oui, monsieur. »«
Il est donc parti ?» s'écria l'artiste désappointé.
« Oui, monsieur. »«
Quand ?»«
Hier soir. »«
Pour où ?»«
Pour Paris. »«
Avez-vous son adresse à Paris ?»«
Non, monsieur. Il ne nous l'a point laissé. »«
Vous en êtes sûr ?»«
Tout ce qu'il y a de plus sûr. »
Mais on pourra la lui demander.
Doit-il donc revenir ?
Oui, monsieur. Passez un dimanche avec Mademoiselle Amanda.
Qui ça, Mademoiselle Amanda ?
Une jeune dame très jolie, qui, sachant qu'il était blessé, est venue le voir.
Ça doit être une bonne amie à lui.
Il est assez beau garçon pour ça, monsieur Duchemin.
Savez-vous l'adresse de cette personne ?
Non, monsieur.
La connaissiez-vous auparavant ?
Oui, monsieur.
Elle a passé une douzaine de jours chez nous, à la Villa des Mûriers, annexe de l'hôtel, avec un monsieur déjà d'un certain âge, mais tout à fait bien, qui me faisait l'effet d'être son protecteur, comme on dit.
Alors, Mademoiselle Amanda est une cocotte.
Dame, monsieur, ça m'en a un peu l'air,
mais une cocotte très comme il faut. Son protecteur était un baron, rien que ça.
Un baron ? Répéta l'artiste.
Le baron de Reiss.
Étienne tressaillit.
« Vous avez bien dit, le baron de Reiss ! » s'écria-t-il, pouvant à peine en croire ses oreilles.
« Oui, monsieur, un monsieur très comme il faut. »
« Et qui connaissait sans doute monsieur Duchemin. »
« Oh, quant à ça, je ne le crois pas. »
« Pourquoi ?»«
Parce que mademoiselle Amanda a eu bien soin d'attendre que le baron soit parti pour venir voir monsieur Duchemin. »«
Savez-vous l'adresse de monsieur Reiss ?»«
Non, monsieur. »
« Mais n'avez-vous pas ici ce qu'on appelle le livre de police ?»«
Si, monsieur. »
« Les règlements ne vous enjoignent-ils point d'y inscrire toute personne qui loge chez vous, ne fût-ce qu'une seule nuit ?»«
Aussi, monsieur. » »«
Eh bien, le baron de Reiss doit avoir donné son adresse. » »«
Ça se peut tout de même, monsieur. » »«
Mais tenez, voilà la patronne qui va vous répondre, » ajouta la servante en montrant la propriétaire qui entrait.
« Moi, je cours préparer votre café au lait. »
La maîtresse d'hôtel s'approcha d'un air fort digne.
« Qu'y a-t-il donc, monsieur ? »
demanda-t-elle. Étienne lui répéta la question qu'il venait de poser.
« Mais cette fille est folle, monsieur !» répliqua la maîtresse de l'hôtel. « J'ai certainement l'adresse de monsieur le baron. Un homme si aimable et si distingué. Seulement, vous comprenez que je ne communique point mes livres aux subalternes.
Je comprends cela à merveille, madame, et je l'approuve fort. Reprit Étienne Castel. Figurez-vous que je suis très lié avec monsieur de Reiss. Nous nous sommes connus en Allemagne, mais le baron, voyageant presque toujours, n'a guère de domicile fixe. Votre servante a par hasard prononcé son nom devant moi, et s'il est à Paris en ce moment, ce qui me semble probable, je serais vraiment heureux d'aller lui serrer la main. Je vais vous satisfaire à l'instant, monsieur. L'hôtelière prit un registre dans une armoire fermée à clé, le consulta et dit « Monsieur le baron de Reiss demeure à Paris, rue de Vintimille, numéro 19. » L'artiste remercia et écrivit cette adresse sur son agenda. La servante apporta le café au lait. Étienne le prit et regagna le chemin de fer. Il avait hâte de rentrer à Paris, où il arriva à 11 heures du matin. Sans perdre une minute, il se fit conduire rue de Vintimille afin de vérifier l'exactitude de la déclaration faite par le protecteur de Mademoiselle Amanda, exactitude dont par instinct il doutait un peu. Nous savons déjà qu'il avait raison de douter. Le baron de Reiss était absolument inconnu au numéro 19, de même qu'au numéro 17 et au numéro 21, où l'artiste prit des informations pour l'acquit de sa conscience. Plus Étienne Castel tentait de s'éclairer, plus il s'enfonçait dans les ténèbres. Quel pouvait être cet homme, portant à coup sûr un faux nom, qui avait payé à Joigny les dettes de Duchemin et qui honorait de sa protection la maîtresse de celui-ci. C'était à lui, Étienne Castel n'en doutait pas,
que Duchemin avait livré la pièce volée aux archives de la mairie.
Or, le pseudo-baron n'avait acheté cette pièce que pour la donner ou pour la vendre à Paul Armand. Ceci ne pouvait se discuter. Mais où chercher la clé de l'énigme qui se posait de cette façon? Trois personnes pouvaient la lui donner. Duchemin, Mademoiselle Amanda et le baron de Reiss. Tous les trois étaient introuvables. Duchemin devait bien aller passer un dimanche à Bolleroy. Du moins, il l'avait annoncé. Mais quand? L'artiste reprit le chemin de la rue d'Assas. « Belle expédition » murmurait-il en retournant chez lui. « Ne fais pas le fier, mon bonhomme. Tu peux te vanter de rentrer bredouille. »
Pendant tout ce temps perdu dans le but, évidemment louable, de chercher le véritable assassin de Jules Labroux et d'amener ainsi la réhabilitation de Jeanne Fortier, nous savons qu'un misérable préparait lâchement la mort de la pauvre femme. Nous avons vu Ovid Soliveau se glisser furtivement dans la maison de la rue Gillecoeur et s'enfermer au fond d'une alcôve du quatrième étage. Là, il s'étendit sur le parquet, non sans maugréer contre la dureté de cette couche peu élastique, et il attendit le moment de consommer son crime. Ce crime nécessitait certains préparatifs, qui ne pouvaient se mener à bien dans l'obscurité, à moins de se servir d'une lanterne, et la prudence du scélérat ne lui permettait point de recourir à un auxiliaire aussi compromettant qui trahirait la présence d'un intrus dans la maison. La petite pointe du jour paraissait à 5 heures du matin. Dès qu'une clarté pâle et grise remplaça les ténèbres, Ovid sortit de son alcôve et, marchant sur la pointe des pieds afin de ne faire aucun bruit, s'approcha d'une croisée et inspecta les maisons d'en face. Les volets de tout étaient clos. Personne ne circulait dans la rue silencieuse. Ovid se dit qu'il pouvait amener à lui les persiennes des fenêtres où passaient les cordes suspendant l'échafaudage mobile. Ces fenêtres étaient ouvertes. Il avança le bras et tira à demi les persiennes. De cette façon, il lui devenait possible de voir dans la rue, par les interstices des lames en biseau, et de travailler à son aise à l'œuvre de mort. Les cordes roulant dans les poulies de l'échafaudage, nous l'avons expliqué, était attaché simplement aux barres d'appui des fenêtres. Mais il ne fallait pas songer, pour que l'échafaudage libre de ses attaches pût tomber d'un seul trait, à détacher les cordes l'une après l'autre. Il était nécessaire qu'elles fussent lâchées ensemble. L'échafaudage alors s'abattrait tout à plat sur le trottoir. Donc, il importait que les deux cordes soutenant l'échafaudage à chaque bout fussent réunies par une seule, facile à détacher, et qui permettrait la descente directe et foudroyante de l'échafaudage. Voici comment s'y prit Ovid. Les attaches étaient longues. Il commença par dénouer celle de droite et alla en fixer l'extrémité à la barre d'appui de la fenêtre de gauche. Ceci fait, il opéra un travail exactement semblable, mais en sens inverse pour la tâche de gauche. Ovid, afin qu'au dehors l'échafaudage ne changeât point de position, fut obligé, en faisant ce travail, de déployer une force musculaire dont on ne l'aurait jamais cru capable. Son front ruisselait de sueur. Rien n'était terminé cependant. Le misérable tira de sa poche une ficelle de fouet fort solide et noua les deux cordes au point central de la croix de Saint-André qu'elles formaient en passant l'une sur l'autre pour aller de gauche à droite et vice-versa. Il passa 6 tours en serrant avec énergie. Les cordes, en se tendant, ne pouvaient glisser dans ce lien solide. Ovid avait consacré à sa besogne un temps assez long. Il s'arrêta pour respirer et regarda sa montre, dont le cadran indiquait 6 heures. « En ce moment, Jeanne Fortier sort de sa boulangerie, » murmura-t-il. « Encore 25 minutes à attendre. Il s'agit de dénouer le tout. » Alors, il alla défaire à droite et à gauche les nœuds fixant les cordes croisées et mit à ce travail une précaution énorme. Indispensable d'ailleurs, car si la pesanteur de l'échafaudage faisait glisser les cordes dans le lien de ficelle à fouet, tout était perdu. L'échafaudage chavirerait, écroulerait. Chavirerait, écroulerait. La première corde fut détachée. L'échafaudage céda du côté droit, mais de quelques centimètres seulement. Ovid bondit jusqu'au second nœud et le détacha en retenant fortement la corde afin d'éviter toute secousse. Le lien de ficelle ne bougea pas. Soliveau lâcha la corde qui, tendue par le poids, se raidit aussitôt. Tirant alors de sa poche un couteau qu'il ouvrit, il passa le fil de la lame sur l'extrémité de ses doigts.
C'est tout fraîchement aiguisé, murmura-t-il en riant. Ça coupe comme un rasoir.
Gardant le couteau à la main, il s'accroupit entre les persiennes à demi fermées et jeta un coup d'œil vers le bout de la rue par laquelle la porteuse de pain devait arriver d'un moment à l'autre. Jeanne n'était point encore en vue. À droite et à gauche s'ouvraient quelques portes et des boutiques dont les garçons enlevaient les volets en bâillant. Ovide aperçut la concierge de la maison dans laquelle il se trouvait. En pantoufles et une boîte au lait à la main, elle traversait une passerelle, gagnait le trottoir d'en face et se dirigeait rapidement du côté du quai. « File, ma vieille !» murmura le misérable. « Et crois-moi, dans ton intérêt, reste dehors le plus longtemps possible. Il ne fera pas bon ici tout à l'heure. » De nouveau, il regarda du côté de la rue Saint-André-des-Arts, et malgré lui, une sorte de tremblement nerveux l'agita. Jeanne venait d'apparaître, poussant son chariot chargé de pain, et elle s'engageait sur le trottoir où l'attendait la mort. « La voilà !» se dit-il, toujours secoué par ce tremblement involontaire dont nous avons parlé. « Il s'agit de ne pas manquer mon coup. » Et les yeux fixés sur Jeanne, il la suivit dans sa marche lente. Elle avançait petit à petit, s'arrêtant de maison en maison pour la distribution de son pain. Quelques piétons commençaient à la croiser ou à la dépasser. C'étaient des ouvriers allant à leur travail. « Saperlipopette !» pensa Soliveau avec une certaine terreur. Il pourrait très bien se faire qu'il y ait du monde en même temps qu'elle sous l'échafaudage. Au bout d'une seconde, il reprit avec une résolution farouche. « Ah bah tant pis. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est un accident après tout. L'entrepreneur de peinture sera responsable. Il paiera les indemnités aux ayants droit. » Jeanne avançait toujours. Elle n'était plus qu'à 10 pas de la maison lorsqu'elle s'arrêta et demeura pendant 2 minutes hors de vue. Puis elle reparut et se remit à pousser son panier. Un jeune garçon de 15 ans environ, un véritable gamin de Paris, marchait devant elle en sifflotant. Ovide l'aperçut et fit un geste de colère. Le jeune garçon et la porteuse de pain n'étaient plus qu'à 1 pas de l'échafaudage. Ovide allongea le bras et d'un coup de couteau trancha la ficelle qui retenait les 2 cordes. Alors un bruit effrayant se fit entendre. Les cordes sifflaient dans les poulies sous le poids de l'échafaudage qui s'écroulait en éraillant les murailles. Une grande clameur s'éleva, puis un craquement sinistre. Ovide, se relevant d'un bond, s'élança hors de l'appartement et descendit l'escalier comme une avalanche. L'échafaudage venait de s'abattre sur le trottoir, broyant le jeune homme qui marchait devant Jeanne. Celle-ci était étendue un peu en arrière, évanouie, le visage couvert de sang, mais vivante. Le chariot d'osier rempli de pain qu'elle poussait venait de la sauver. L'échafaudage, ayant rencontré ce chariot dans sa chute, laissait un vide entre son plancher et le trottoir et s'appuyait par l'une de ses extrémités sur le panier roulant écrasé à demi. En entendant le sifflement des cordes, Jeanne avait levé la tête et, comprenant le péril, s'était jetée à la renverse. La blessure de son front provenait d'un éclat de bois. Cette blessure et surtout l'épouvante avaient déterminé son évanouissement. Les mauvaises nouvelles se répandent avec la rapidité de l'étincelle électrique. Malgré l'heure matinale, il y eut bientôt foule sur le théâtre du sinistre. De toutes les maisons, de toutes les boutiques, sortaient des gens effarés et curieux. On ne s'occupait point de la manière dont l'accident s'était produit. On essayait de soulever la lourde machine, de la hisser sur le talus formé par les pierres sorties de la tranchée et de dégager ainsi le corps du jeune garçon. D'autres portaient secours à Maman Lison, que plusieurs ménagères reconnaissaient. Une foule compacte obstruait la porte de la maison en réparation. Ovide se faufila comme un reptile au milieu de cette foule et s'éloigna rapidement sans que personne fît attention à lui. Il avait vu l'enfant écrasé et Jeanne, dont le pâle visage disparaissait sous un masque de sang. Peu lui importait le reste. « Je n'ai pas manqué mon coup comme à Bois-Colombes cette fois, » se disait-il. « Elle est bien morte. » Et il regagna sa demeure au pas de course, respirant à plein poumon. Le danger, croyait-il, n'existait plus pour Paul Armand grâce à lui. On était enfin parvenu à déblayer le trottoir. Des sergents de ville venaient d'arriver et l'un d'eux courait chercher le commissaire de police. Jeanne, dont la blessure, grave en apparence, était légère en réalité, venait de reprendre connaissance. Questionnée par le commissaire, elle répondit qu'elle ne savait rien
et qu'il fallait attribuer son salut à un vrai miracle. Puis, soutenue par de bonnes gens du quartier, elle retourna à la boulangerie de la rue Dauphine, abandonnant ses pains broyés et son panier hors de service. Quant au jeune garçon tué sur le coup, il fut impossible d'établir séance tenante son identité et le commissaire fit transporter le corps à la morgue. Des peintres arrivaient pour se mettre au travail. Il leur fallut répondre au magistrat qui commençait son enquête. L'écroulement de l'échafaudage paraissait à bon droit incompréhensible à ces braves ouvriers. Il n'en fut pas moins mis sur le compte de leur négligence et le patron déclaré responsable pécuniairement. Pour tout le monde, à commencer par le commissaire de police, on était en présence non d'un crime, mais d'un accident. Qui donc aurait pu d'ailleurs soupçonner le crime? Jeanne avait été à deux doigts de la mort, mais elle était à 100 lieues de croire qu'on avait voulu attenter à sa vie. La pauvre femme, à peu près remise, un bandage sur le front et réconfortée par un petit verre d'eau-de-vie que lui fit boire le boulanger Lebray, prit un autre panier roulant, un second chargement de pain et continua la distribution momentanément interrompue. Comme on le pense bien, elle arriva fort en retard au quai Bourbon, dernière étape de sa tournée du matin. Madame Dominique, la concierge, qui déblatérait contre elle depuis 1 heure, ainsi que les locataires attendant leur pain, fut épouvantée en la voyant livide, un bandeau taché de sang sur le front, et en écoutant le récit de la catastrophe dont elle avait failli se trouver victime. À son courroux succéda le plus complet attendrissement. Il nous paraît superflu de l'affirmer. Jeanne monta près de Lucie. La jeune fille était levée et, n'ayant encore repris qu'une partie de ses forces, s'occupait lentement des soins du ménage. En apercevant Jeanne telle que nous l'avons décrite, la pauvre enfant devint blanche comme un linge et l'angoisse se peignit sur sa figure. La veuve de Pierre Fortier, songeant alors qu'elle avait failli ne plus jamais embrasser sa fille, fondit en larmes et lui tendit les bras. Lucie, tremblante, s'y laissa tomber. « Mon Dieu, balbutia-t-elle, que s'est-il donc passé ? Ah, mon enfant, ma chère mignonne, j'ai été bien près de mourir, et la pensée que je serai morte sans vous revoir me fait pleurer malgré moi. »«
Mourir ? » répéta Lucie.
« Oui, mais comment ?
Un accident terrible. »«
Lequel ?»
La porteuse de pain recommença son récit.
« Pauvre maman Lison, » fit Lucie en l'embrassant de nouveau. « Qu'est-ce que je serais devenue, moi, sans vous ? Seule au monde, n'ayant plus personne pour m'aimer, pour me consoler. Aurais-je pu vivre ?»
Jeanne rendit à sa fille baiser pour baiser et répondit.
« Le péril est passé. N'en parlons plus. N'y pensons même plus. Seulement, j'ai eu bien peur.
Votre blessure n'est pas grave, au moins. »
« Ma blessure n'est rien du tout. C'est un éclat de bois qui m'a fait une entaille au front. Dans 3 ou 4 jours, on n'en verra même plus la trace. Il ne me reste qu'à remercier le bon Dieu d'avoir veillé sur moi, car j'aurais dû être écrasée comme le pauvre enfant, si insouciant, si joyeux, qui marchait devant moi en chantant, et qui n'est à cette heure qu'un cadavre défiguré. Encore une fois, n'y pensons plus. »
Jeanne donna à Lucie un dernier baiser et partit pour aller rendre ses comptes. En rentrant chez lui après une absence qui avait causé un grand étonnement à son valet de chambre, Étienne Castel apprit que Georges Darrier était venu s'informer de lui chaque jour. Le jeune avocat comprenait à merveille qu'on lui cachait la vérité et que le peintre était en voyage. Fort discret de sa nature mais très intrigué, il se demandait où son tuteur pouvait s'être ainsi mystérieusement rendu. « Ce cher enfant doit être inquiet, » se dit l'artiste. « Je vais le rassurer au plus vite. » Et immédiatement après son déjeuner, il se rendit chez Georges. Ce dernier était au moment de sortir lui-même pour aller rue d'Assas.
« Ah, mon tuteur » s'écria-t-il. « Enfin vous voilà. Votre présence me rend la vie.
Craignais-tu donc qu'il ne me fût arrivé quelque chose de fâcheux ?»«
Mon Dieu, je ne précisais rien, mais je craignais tout. Un accident est si vite arrivé. Votre valet de chambre prenait, en me parlant, des attitudes de sphinx. Il avait une consigne, et je n'insistais point. Mais, franchement, vous auriez dû l'autoriser à m'apprendre que vous étiez en voyage.
J'étais en voyage, c'est vrai.
Voyage de plaisir ?
Nullement, voyage d'affaires, et tu me vois revenir fort déconfit.
Vous avez eu des ennuis ?
J'ai eu des déceptions. Ce n'est point pour mes affaires personnelles que je courais le monde, mais pour celles des autres. Il s'agissait de Lucien Labroux, de Jeanne Fortier, de Lucie Fortier et de Paul Armand.
Il s'agissait de Jeanne Fortier ? Répéta Georges très surpris. C'est justement pour vous parler d'elle que je suis venu chez vous tous les jours depuis votre départ.
Aurais-tu découvert quelque chose à son sujet ?
J'ai vu Jeanne Fortier elle-même.
Tu as vu Jeanne Fortier ? S'écria l'artiste avec une stupeur facile à comprendre.
Oui ? Où donc ?
Elle était, il y a 5 jours, ici même, dans cette pièce, à l'endroit où vous êtes.
Ici ? Mais comment cela se fait-il ? Qui t'a dit que c'était elle ?
Le hasard.
Je ne sais point deviner les énigmes. Explique-toi.
Georges raconta à son ex-tuteur la visite de la porteuse de pain venant lui apporter les papiers perdus, trouvés par elle, et lui demander conseil au sujet des agissements de Paul Armand et de Mary contre la pauvre Lucie.
« Elle sait que Lucie est sa fille ?» interrompit Étienne.
« Elle le sait, j'en réponds. »«
Elle t'a dit qu'elle était Jeanne Fortier ?»«
Non, mais je l'ai devinée comme Paul Armand l'a devinée lui-même. »
Étienne Castel fit un brusque haut le corps.
« Paul Armand s'est donc trouvé en face d'elle ? »
s'écria-t-il.
« Oui ?
Et il l'a reconnue ?
À quoi ?
À la façon dont elle plaidait la cause de Lucie.
Une mère éplorée défendant sa fille pouvait seule avoir de tels accents.
Jeanne Fortier a-t-elle reconnu Paul Armand ?
Elle ne pouvait le reconnaître. C'était la première fois qu'elle le voyait.
L'artiste prit son front dans ses mains.
« Décidément, murmura-t-il, mes soupçons s'égaraient.
Ce que tu viens de m'apprendre me le prouve de nouveau.
Vous soupçonniez ?
Qui ?
Paul Armand.
Je m'en doutais.
Vos paroles mystérieuses me l'avaient fait pressentir.
Que croyez-vous donc ?
Que Paul Armand était Jacques Garot, l'assassin de Jules Labroux, tout simplement.